de filles dans mon comic strip.
Bulles à découvrir, une émission qui parle de BD et qui fait...
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, et ça fait... Ou bien, ou parfois même...
Ben on va pas parler de l'inflation aujourd'hui, on va pas parler du château de foire,
on va pas parler de
l'avenir des stations de ski ni de Poutine, mais on va parler de bande dessinée. Bernard.
N'est-ce pas Hugues?
Bulles à découvrir, émission qui va vous donner, on espère en tout cas, envie d'aller chez vos libraires préférés ou vos bibliothèques découvrir quelques chouettes albums qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Voilà.
Eh bien, ça, ce matin, j'ai rencontré un BD-file.
Très enthousiaste
et qui me disait, mais c'est dingue Bernard, je trouve toujours des nouvelles BD et d'excellentes. Et je lui disais, ben, c'est marrant parce qu'avec Hugues, on pense exactement la même chose, il y a énormément de BD et on en trouve toujours des très bonnes. C'est,
oui.
Voilà.
Oui, oui. Et puis un genre qui finalement se renouvelle encore pas mal.
Voilà.
Bon, même si des fois on se dit, il y a des trucs qui tournent en rond, mais il y a toujours quelques talents qui viennent nous poser
oui,
des
on
choses.
On a beaucoup de talents.
Différentes.
Alors nous,
même
notre
sur des formats
kiff.
Qui pourraient être des biographies, qui pourraient être,
oui,
on pourrait se dire,
très
facile,
différent.
Et bien maintenant on est capable de prendre des prismes. Je pense que la BD est un genre en totale maturité.
C'est ça, c'est un art complet, le 9e d'ailleurs. Et on va travailler une BD que je vais saluer pour son originalité, parce qu'il y a une originalité dans Erectus.
Ouais, alors ça s'appelle Erectus, c'est de Eric Jussac, désolé, d'après un roman, j'imagine, de Xavier Muller. C'est sorti chez Phileas. Erectus, attention, c'est pas du cul. Hein.
Ah non, non, pas ouais, du tout. Non,
Erectus,
c'est un homme debout.
Ouais. Erectus, alors
Homo Erectus.
Le prisme est très simple, un virus touche le monde animal.
Un virus échappé d'un labo quand même, il faut le dire.
Échappé d'un labo. Touche le monde animal et lorsqu'un animal est touché par ce virus, au début c'est des singes et des éléphants, ils font un pas
un
de
bon
recul
en arrière.
Dans l'échelle de l'évolution.
C'est ça.
Mais variable.
Ça c'est original.
Ouais.
Parce que jusqu'ici on a vu beaucoup de virus qui nous projetaient plutôt en avant, qui nous donnaient des super pouvoirs ou des choses effrayantes jusqu'à la mort évidemment, générale, jusqu'à l'extinction totale. Et là c'est complètement autre chose, c'est vraiment un bond en arrière.
Un bond en arrière.
Ça, c'est original.
Un bond en arrière qui est encore variable. Donc, des espèces remontent à leur version d'il y a 300 000 ans, d'autres à leur version d'il y a 2 millions d'années.
C'est ça.
L'humain s'en sort assez bien puisque ça le fait remonter parce que l'humain va être touché. Hein,
bien sûr, forcément. Sinon, c'est pas marrant.
Ça va le faire retomber à son époque d'Homo erectus, hein, justement.
Et ça touche même le végétal. Et
ça touche même le végétal, ce qui peut poser un gros problème, Bernard.
Ah oui.
C'est-à-dire que si le blé... rétrograde à ce qu'il
était le tabac
il y a 500 000 ans, c'est la famine généralisée
sur la
Terre.
Famine, bien sûr.
Voilà. Alors, des scientifiques vont se lancer, notamment un chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé qui va voir le souci, alerté par des scientifiques en Afrique du Sud, parce que le foyer est en Afrique du Sud. Et là, ça va être une espèce de thriller scientifique pour tenter de remonter, d'isoler, de trouver le patient, ce qu'on appelle le patient zéro. Et tenter de sauver l'humanité parce que et puis ça pose aussi un problème éthique à l'humanité, c'est-à-dire que ces humains qui reviennent à ce qu'ils étaient il y a 100 000 ans ou je sais pas combien
vont cohabiter avec les autres.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Est-ce qu'on les traite
comme des humains, comme des animaux, comme nos semblables?
Est-ce qu'on les isole?
Est-ce qu'on les extermine?
Est-ce qu'on les tue? Exactement. Oui. Donc toutes ces questions qui sont posées en direct, alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est que j'ai lu d'une traite pour une raison simple, c'est que le scénario est linéaire, c'est-à-dire qu'on part dès le départ, on a une émergence, hein, donc un éléphant à deux trompes qui arrive et à partir de là, une enquête qui se fait.
À quatre défenses.
À quatre défenses.
Et
si, deux trompes, il me semble qu'il a deux trompes, oui. Et un phobocidus, je ne sais plus. Et donc des choses qui ont réellement existé. Et on avance dans cette enquête de façon, effrénée. Et donc on lit ça, je dirais presque mort de faim de savoir comment ça va se terminer. Et donc j'ai lu d'une traite.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a un réalisme qui est tout à fait convaincant.
Ouais.
Voilà.
Un dessin un peu académique, c'est presque le petit truc par lequel ça pêche un petit peu, voilà. Mais en même temps, c'est clairement l'histoire qu'on nous raconte qui prime dans cet album.
Une très belle couverture, quand même.
Oui, hein, et la couverture est très belle. Ouais.
Hein, bon, la couverture, c'est...
Deux Homo erectus qui grimpent sur une antenne de téléphonie
c'est
sous un ciel étoilé.
Tout à fait étonnant, ouais. Ouais.
Voilà, ça pose le truc. Erectus chez Phileas, belle réussite. Ouais. On est bien content de l'avoir reçu, de l'avoir lu. Voilà. On change totalement, on va faire un peu du tout au tout dans cette émission, mon cher Bernard. Voilà, on est tous les deux.
À droite, à gauche, oui.
On a le droit d'être foutraque.
Mais oui.
Voilà. On va parler voleurs, on va parler tableaux, on va parler musées, on va parler escroquerie.
Oui.
Avec Trompe-l'œil de Damien Martinière et Paul Bonnat chez Jungle. Tu vas avoir la douloureuse, puisque moi je ne suis pas un escroc. Je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu, car je ne l'ai pas lu. Tu es le seul de nous deux à l'avoir lu.
Oui, oui, oui. Donc c'est une aventure d'escrocs, effectivement, comme tu le dis. Ce ne sont que des escrocs, des méchants entre eux. C'est une femme qui sort de prison et qui, pour se refaire une santé, alerte son père, qui est un grand artiste, ou plutôt pas du tout un artiste raté. Il ne sait rien faire sauf copier. Donc, il copie à merveille, mais chaque fois qu'il fait quelque chose d'original...
Il y en a des bons, hein, des copies.
Et oui, oui, non, mais c'est un art en soi d'être que plagiaire. Donc, il est 100% plagiaire.
Merci pour le mot. Il ne venait plus.
Et son père est un excellent plagiaire, mais un piètre peintre, inventeur en tout cas. Il ne s'est pas inventé, donc il fait des tableaux, mais ça n'a aucun souffle, aucun succès. Bon. Et elle, pour se refaire la cerise, comme on dit, décide de le remettre dans son art de copiste. Sauf qu'elle est tenue par un méchant clan très dur et par erreur, elle fait flamber tout un stock de choses volées, de tableaux. Donc elle est en dette vis-à-vis d'un clan agressif et donc elle a intérêt à se remuer et à convaincre son père de se remettre au boulot, ce qu'elle fait, ce qu'elle obtient. Bon voilà, après je ne vous dis pas comment ça se termine parce que ce serait dommage de divulguer la fin. Mais bon, ça va se finir dans le sang, on se doute.
Ah, carrément dans le sang.
Ah, bah oui.
Ah. Ok, ouais, voilà. On n'est pas dans le...
Non, non, mais c'est pas mal, c'est sympathique. Ça a l'air doudou, gentil, mais ça l'est pas. Voilà.
D'accord, ça s'appelle Trompe-l'œil chez Jungle.
Voilà. Ça se lit tranquillement. Voilà.
Visuellement, les tableaux, justement, parce que souvent, quand tu te souviens de Crécy avec sa BD dans le Louvre, etc., où il y avait une espèce de mise en vie des tableaux, etc. Oui. On est un petit peu dans ce genre de...
Tout petit peu. Alors juste une chose intéressante, c'est qu'ils disent à un moment, un peintre, quand il fait un grand tableau, il est forcément dedans. Et donc, on va voir à la fin, le père qui va mourir, qui part dans un tableau. Et à plusieurs reprises, il est complètement immergé parce qu'il a la contrainte de faire des tas de tableaux, de les copier, et à la fin, il est complètement immergé.
Ça s'appelle donc Trompe-l'œil chez Jungle. Allez, une BD, un joli conte, même s'il est un peu dur, ça s'appelle Ma petite louve de Camille Garoche, c'est sorti chez Delcourt. Ça nous raconte les tribulations d'Anouk et Sacha, deux jeunes enfants, elle un peu moins jeune que, voilà, de 14 et une dizaine d'années, qui viennent se mettre au vert avec leur papa dans un village sur un contrefort des Alpes, on le devine assez facilement parce qu'il y a les loups.
Et où tout le monde veut chasser du loup, et les enfants tombent sur un terrier de louveteaux.
Voilà.
Qui sont
tout
seuls.
Qui sont traumatisés parce qu'en fait, ils ont perdu leur mère dans les attentats
du Bataclan.
Du Bataclan.
Ouais.
Et donc, ils se retrouvent dans ce village confrontés à d'autres violences, celles vis-à-vis des loups et puis surtout des humains entre eux dès lors que on devient antagoniste sur cette question. Suivez mon regard, toute ressemblance avec des épisodes où ursins pyrénéens pourraient ne pas être.
Voilà. Bon.
Et voilà, on ne porte pas de jugement, mais c'est vrai que voilà, ça nous fait quand même une petite.
Enfin bon, les enfants sont du côté des louveteaux et les adultes s'entretuent joyeusement
Voilà. Parce que les enfants, eux, puis on voit qu'à travers aussi ces loups dont ils vont prendre soin, c'est eux-mêmes qu'ils reconstruisent.
Qu'ils soignent,
des loups qui sont orphelins comme eux, voilà. etc. Parce que la maman est morte, tuée par un tonton.
Et puis, alors, ce qui est bien dans cette BD, c'est qu'elle n'est pas naïve parce qu'à un moment...
Ça
aurait pu. Et il y a un louveteau qui mord un enfant à un moment, mais pas méchamment. Enfin, pas dangereusement. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu sais, c'est très dangereux. Quand le loup va devenir adulte, c'est pas un gentil. C'est pas, il est ni méchant ni gentil. Il mord parce qu'il devient dominant. Attention, tu te mets en danger. Mmh. Et ça, c'est juste.
Ouais. Et ça, c'est très juste. C'est une jolie histoire. Je me suis demandé dans les mains de qui on pouvait la mettre. C'était une BD pour les adultes, pour les ados, pour les enfants. Finalement, peut-être pour tout le monde.
Pour tout le monde, oui.
Il y a le côté retour sur Bataclan. Ben, c'est pas forcément joyeux. C'est vrai qu'en ce moment, la BD a du mal à être joyeuse, mais c'est peut-être l'époque qui veut ça
c'est
aussi.
C'est vrai qu'on rigole pas tous les jours.
Non, hein. Non, non.
Surtout quand on va parler de Mavda, on va pas rigoler.
Un mot sur le dessin, parce que le dessin est d'une efficacité. Alors tout à l'heure, on disait avec Erectus, je disais il est un peu académique. Là, il pourrait être académique.
Dans Erectus, ce qui est convaincant, c'est le scénario.
Oui. Là, il peut paraître aussi très simple.
Oui.
Et quand tu regardes, qu'est-ce qu'il est génial, ce dessin.
Oui, oui,
la mise en couleur, les arbres, les machins.
Il y a beaucoup de douceur.
Il n'y a pas une volonté d'être très réaliste, mais il y a des jeux d'ombre.
Moi, je dirais qu'il y a de la douceur. Ils ont voulu faire un album doux.
Et franchement, moi, Camille Garoche, elle m'a un peu scotché, y compris sur vraiment l'efficacité du dessin.
Voilà.
Puis la beauté.
Voilà, double page, là. Magnifique.
C'est
les
beau,
loups
les
qui sont là en embuscade.
Et sur la fin, il y a quelques recherches graphiques, là, comme on dit, alors sur les personnages et aussi sur la forêt.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as vu ces arbres,
oui,
Bernard,
les
pins. C'est, c'est un truc de. C'est magnifique.
Oui,
mais vraiment, vraiment. Moi, ça m'a scotché, hein.
Ouais, ma petite louve,
ça m'a vraiment scotché.
Ouais.
De Camille Garoche chez Delcourt.
Ouais.
Allez, on change encore d'ambiance parce que après, les gamins orphelins de maman, on va parler de parents orphelins de leur bébé.
Ouais.
Avec, alors je sais pas comment on le prononce, Mahda, on va dire,
Mahouda.
C'est écrit M-A-W-D-A.
Ouais.
Mahda, oui, sans doute, oui, t'as raison, qui est sorti chez la boîte à bulles. Une BD totalement dramatique, mais qui est aussi un thriller judiciaire et politique.
Oui.
Autour de la problématique des migrants et des migrants avec un petit prisme qu'on n'imagine pas parce que nous on est très focalisé sur la jungle de Calais,
sur
gens qui veulent passer
en
Angleterre en passant par la France. Il y a d'autres circuits et notamment la Belgique et alors on découvre dans un premier lieu dans cette BD qui est un drame absolu puisque c'est celle de parents qui essayent de passer par moult moyens
pour aller en Angleterre, ils veulent aller en Angleterre.
Voilà, qui finissent pourchassés par la police belge qui tire sur le camion un petit peu à l'aveugle et qui tue leur gamine d'une balle dans la tête, gamine de 2 ans, elle s'appelle Mahda.
Voilà.
Et en fait la BD déroule le fil de tout ça. On découvre déjà que la police belge, visiblement, si on trouve parfois la police aux frontières françaises dures, visiblement, elle est en Belgique. Alors ça, moi, ça m'a scotché, parce que c'est pas l'image que renvoie la Belgique. Hein.
Oula. Écoute, moi, en le lisant, heureusement que j'ai lu, à un moment, ils disent, il n'y a pas un seul flic français qui soit concerné par ce scandale d'État. Parce que c'est vraiment
parce que
un scandale
d'État.
J'ai été vraiment soulagé qu'il n'y ait pas un seul Français qui soit incriminé, parce que là-dedans, on se rend compte que tout le monde ment. L'État, les flics, le procureur,
le médecin légiste.
Et il faut vraiment une enquête citoyenne pour que cette BD puisse exister, tout simplement.
Que la BD puisse exister, que le procès puisse avoir lieu, que les parents puissent aussi respirer un petit peu, parce que c'est eux qui sont criminalisés dans la propre mort de leur
fils. C'est une horreur, cette BD.
C'est un truc de fou.
Cette histoire est une horreur.
Et c'est une histoire vraie, bien
évidemment. Oui, c'est une histoire vraie, évidemment.
Sinon, ce ne serait pas drôle. Hein.
Évidemment, bien sûr. Il y a toute la documentation à la fin. Hein. Il y a tout un dossier à la fin qui explique presque jour par jour, heure par heure, ce qui s'est passé. Donc, ensuite, la scène reconstituée, parce qu'on nous raconte une scène.
La scène reconstituée.
La scène est reconstituée. Enfin bon, c'est un document de première importance sur comment nous traitons les immigrants. Quoi.
Avec un dessin en noir et blanc, qui est très austère, et c'est
très
fait
dur.
Exprès.
C'est
très dur. Alors après,
c'est difficile de ne pas se mettre à la place des parents, donc c'est une horreur. Enfin, bon,
c'est pas gore non plus.
Non, mais c'est pas gore, non.
Mais c'est une histoire qui m'a secoué.
C'est très secouant. Ouais.
Je pense qu'il va vous secouer aussi. C'est de Manus Cordia qui fait un boulot Voilà, puis un vrai boulot d'enquête où d'enquête. Il allait rencontrer, essayer de discuter avec les protagonistes, avec essayer de détricoter comment justement ce mensonge d'État qui consiste à avoir un bébé mort sur le bitume, à être transformé, et puis, alors, finalement il n'est pas mort, finalement peut-être il est tombé.
Et puis attends, là, le plus fort c'est qu'à un moment il y a une vitre qui est cassée, donc ils sont poursuivis, et donc ceux qui sont à l'intérieur de la camionnette poursuivis tendent un bébé pour montrer aux gens ne tirez pas, il y a des bébés à l'intérieur, il y a des enfants à l'intérieur. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que l'enfant a été assommé parce qu'ils ont défoncé la vitre avec la tête de l'enfant. C'est complètement absurde. C'est con. C'est insultant pour les gens.
Et on y va avec les journaux locaux qui ont suivi la communication du bureau du procureur de l'État. Enfin, c'est incroyable.
C'est une horreur.
Incroyable. Ouais. Franchement, on aurait pu dire une histoire belge, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas envie de rigoler.
Non, mais c'est pas rigolo. Et franchement, la seule chose qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, c'est qu'il n'y avait pas de Français qui trempaient là-dedans.
Maouda, donc, c'est sorti chez La Boîte à Bulles. Franchement, alors, on a parlé de BD Plaisir, Ma Petite Louve.
Ah oui, là on se prend une gifle dans...
Là, c'est des BD... comment dire ça ? C'est des BD nécessaires.
Ah oui, nécessaires, c'est le mot. Oui, oui, absolument nécessaire.
Et je pense que cette narration-là, elle nous permet de mieux comprendre aussi les réalités de ce que c'est, là, passer par des passeurs, être poursuivi par des flics quand on a des enfants...
Sûr.
Que des articles de presse.
Bien sûr.
Voilà, enfin, on rentre dedans et c'est là aussi le super pouvoir de la BD.
Ça nous parle aussi d'engagement citoyen et puis de qu'est-ce qu'on nous raconte aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on nous raconte ?
Et qu'est-ce qu'on est, et on dit ça, on parle nous depuis des micros de radio, alors croyez-nous un peu, hein, mais vérifiez toujours.
Vérifiez toujours.
Ouais. Parce que voilà, la parole d'évangile n'existe pas.
Non.
Voilà. Tout simplement. Allez, on va aller faire un tour en Israël maintenant avec la nouvelle BD de Tohar Sherman Friedman. Ça s'appelle Mon âme vagabonde, chronique de Tel Aviv. On l'avait déjà croisé BD-iquement parlant, Tohar Sherman Friedman, avec une BD qui s'appelait Les filles sages vont en enfer.
Oui.
Tu t'en souviens, Bernard? C'est sorti chez Delcourt, collection Ancrage.
Oui.
Et là, bah, pareil, je ne l'ai pas lu, moi.
Alors moi je l'ai lu, mais je me suis forcé parce que c'est l'histoire d'une dépression et d'une fille qui se lance dans les arts graphiques et qui raconte sa jeunesse qui est pas marrante, bon, et donc effectivement elle déprime et bah il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout parce qu'on sent que, comment dire, oui, raconter sa dépression quand on en a fait une et quand on est des dessinatrices, ok, et alors c'est cool. Enfin,
un peu auto-centré.
Ouais, c'est très auto-centré. C'est... Bon, voilà. Je dirais que l'exercice est très limitant. Et c'est pas très convaincant. Voilà,
je l'ai essayé, je suis pas arrivé au bout, je vais pas le dire, mais bon.
Moi, j'y suis arrivé, en forçant.
Et en fait.
En plus, il y a beaucoup de textes alors que ça s'impose pas.
En fait, je suis pas fan du dessin en plus, c'est de la façon dont elle représente les personnages elle-même. C'est des espèces de nez rouge.
On n'a pas envie de se battre pour cet album-là.
Je ne comprends pas. Et j'avais bien aimé Les Fissages ou en enfer.
Oui, celle-là, était pas mal. Il y avait de l'originalité dedans, alors que là, j'en ai pas trouvé.
Là, j'ai du mal à la suivre. Et même si d'ailleurs, Les Fissages ou en enfer, c'était aussi auto-centré, c'était le même dessin.
Oui, non, mais c'était
sa jeunesse,
original.
Sa construction, son émancipation d'un carcan familial, religieux. Oui. Voilà, enfin, c'était quand même pas. Voilà, elle parlait d'elle, quoi. Et,
oui.
Mais je sais pas, c'est.
Je sais
pas pareil.
Quand
là.
On a entre les doigts cet art du dessin, ben on a peut-être mieux à faire que raconter sa vie, quoi.
Voilà. Peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Bon, bref, Mon âme vagabonde. Nous, on vous renvoie
totalement
les fissages vont en enfer. Ouais. Allez, alors là, on est un peu plus foutraque.
C'est foutraque.
Y compris en termes de, comment on appelle ça, de construction du corps.
Allons-y, oui.
Oui. Voilà, puisqu'on va se faire reconstruire de toutes pièces avec Frankenstein, mais Frankenstein à Bagdad, c'est le titre de cette BD parue chez Soleil, de Ozanam et Citadini, d'après un roman, j'imagine, de Ahmed Saadawi.
Oui.
On est à Bagdad, période post-occupation américaine, dans un Bagdad qu'on imagine en mauvais état et détruit, avec un type qui a un drôle de hobby, Bernard, c'est ramasser des morceaux d'humains.
Ouais, on va le dire comme ça. Oui, parce que, bon, Alors, c'est une histoire qui est racontée à plusieurs voix. Donc, le problème, c'est qu'il faut reconstituer à travers tous les témoignages. Et donc, dès que vous avez un témoignage, hop, on vous parle de quelqu'un d'autre à un moment où on ne sait plus qui est qui raconte quoi.
C'est vrai que c'est
Mais l'idée est géniale parce que du coup, c'est un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. C'est fait un petit peu à la Scheherazade, un petit peu le Conte des Mille et Une Nuits. Et on sait qu'il y a un homme invincible, géant, fait de multiples morceaux d'humains, qui se balade et qui tue. Bon.
Et dans Bagdad.
Dans Bagdad. Donc, c'est une sorte de Frankenstein à Bagdad, en effet. Et puis, on va découvrir qu'au fur et à mesure qu'il tue, les membres... C'est-à-dire qu'il a été reconstitué de membres, de gens qui ont tous été des victimes. Et ces membres réclament vengeance. Donc, il tue des gens qui sont incriminés dans le corps même de ce Frankenstein reconstitué.
Il y a un peu de
Et
tout,
alors,
hein,
le
il y a
problème,
du journaliste occidental, voilà, il y a de tout. Du local.
Et alors, le problème que rencontre le scénariste dans cette BD, qui est à la fois... l'idée de trop et l'idée qui rend toute la chose non seulement improbable mais qui rend le scénario injouable, c'est que quand la personne qui a tué une partie de cet homme-là meurt, à ce moment-là le membre tombe, c'est-à-dire que quand il regarde avec des yeux d'un mort et qu'il tue la personne qui l'a tué, les yeux tombent, il ne voit plus, donc ça ne tient pas la route du tout cette histoire.
Il faut retrouver des morceaux,
c'est justement ce qu'il faut, donc c'est très foutraque quand même, scénariquement c'est foutraque,
mais il fallait oser. Moi, oui. je note quand même, le dessin est très chouette.
Oui, oui.
Les couleurs, et moi, dès qu'on est dans ces pays-là, dans le monde moyen-oriental, méditerranéen ou autre, c'est vrai que de suite, tu peux jouer sur les lumières et que là, il y a des pages où c'est fait magnifiquement.
Oui, 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 bien sûr.
Avec un petit côté ligne claire aussi, c'est bizarre.
Oui.
C'est très étonnant.
Mais faut pas chercher à suivre chaque personnage, parce qu'il y en a trop, on est perdu par les noms, et puis chacun raconte un truc différent, et à un moment, on ne sait plus où on en est, mais il faut continuer.
Oui, oui. Mais vraiment, c'est une BD, j'aurais du mal à donner un avis dessus, parce que justement, il y a ce postulat qui est drôle,
oui.
Quand même.
Il oui.
y a ce côté un peu qui te perd, mais qui en même temps est riche, parce que oui, on te fait témoigner sur les morceaux, sur leur passé, sur des gens qui ont croisé le Frankenstein, sur des gens qui ont croisé son créateur, et en 50 pages.
Et à la fin, on nous donne la clé, à savoir que celui qui a créé ça, il a été assisté par magicien, chirurgien, tout ça, mais parce qu'il voulait reconstituer son frère qui avait explosé dans un attentat à la bombe. Donc il a récupéré les morceaux, et donc on comprend qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une amitié forte avec son frère pour donner une dynamique à l'histoire, quoi.
Mm-hmm.
Mais c'est foutraque.
Un peu foutraque.
Très.
Mais il y a du foutraque auquel on... Comment dire ça ? On pardonne plus d'être foutraque que d'autres foutraques.
Oui, c'est vrai. Il y a du foutraque joyeux.
C'est du joyeux foutraque.
Oui, voilà.
Enfin, même si le sujet n'est pas joyeux.
Oui.
C'est chez Soleil, Frankenstein à Bagdad. Voilà. Et on va terminer avec un produit local, Bernard, parce qu'on a des quotas maintenant de produits locaux.
Il est ça, pas, 100% réjoui.
Il n'est pas marqué Naou, celui-là, mais c'est de l'auteur local, voire même apaméen, avec SP qui sort un livre tout seul. Alors, SP, dessinateur assez connu, qui participe à de nombreux projets de BD, mais souvent en tant que dessinateur.
Bien sûr.
Et qui là sort une BD. Il en a fait d'autres, hein, parce qu'il était venu.
Bon, je rappelle que c'est l'immortel auteur du Perroquet, qui pour moi est son chef-d'œuvre absolu, son chef-d'œuvre intime, puisqu'il parle de sa mère, de sa jeunesse, de son enfance, et qu'elle nous a tous tiré des larmes. Donc il a réussi quelque chose de formidable. Alors bien sûr, là maintenant, il s'amuse à faire de l'humour, un peu d'humour noir. Bon, pourquoi pas, il s'amuse à nous amuser.
Donc,
et c'est vrai qu'il ça paraît dans le Fluide Glacial, il trouve sa place dans le Fluide Glacial. Bien sûr.
Bah, humour noir. Hein.
Oui.
Vivre est dangereux pour la santé avec l'écriture en mode truc de paquet de clopes, là, bien évidemment. Avec un type qui est en train de fendre du bois avec sa hache et puis il fait le geste en retour. Et puis il y a le tranchant de la hache qui s'échappe du manche et qui part dans le dos de sa femme qui est en train de tailler les rosiers.
Voilà.
Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour noir.
Alors, il y a un gars d'humour noir dont je me souviens, là, maintenant, c'est sa femme qui lui dit « Ah, oh, mais t'en as pas marre de ces petits gags à la noix, là, fais-nous du sérieux, du tragique, etc. » Et alors, il dit « Ah oui, ce serait tragique, par exemple, si j'ouvrais la fenêtre et que je saute. » Et là, sa femme lui dit « Ah, tu vois, quand tu veux bien. » Et quand on connaît la femme d'Espé, donc de Sébastien Portet, on se doute que c'est certainement pas elle qui a dû lui dire ça. Je pense pas qu'elle ait cette agressivité mentale dont fait preuve les gags de cet humour noir. Mais ce sont des gags qui respectent, et ça je le salue au passage, la notion de chute, parce que c'est pas toujours le cas chez Fluide Glacial. Chez Fluide Glacial, maintenant, on a l'impression que bon, chute, pas chute, on s'en fiche. Alors que lui reste attaché à cette notion-là, et moi j'aime bien.
Voilà. Des gags soit en une page en six cases, soit, soit en page pleine, une image. Alors on le disait hors antenne, la construction même du livre, même s'il est en couleur, que le dessin n'a rien à voir, ça je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Franquin.
Oui, oui.
Et à ses idées
pour
noires.
Pour les idées noires, évidemment, bien sûr. Oui, parce que là, on est très loin de Gaston Lagaffe. Oui. Non, on est plutôt proche de cet humour noir, un peu désespéré quand même. Hein, mais le fond d'Espé, qui est un homme joyeux, souriant, agréable, à corte, peut-être qu'il y a effectivement cette noirceur qui est là et dont il a besoin de se libérer via l'humour, pourquoi pas. Je pense que c'est autothérapeutique chez lui.
Va savoir.
On te salue au passage.
On va le psychanalyser, Sébastien. SP, donc, vivre est dangereux pour la santé chez Fluide Glacial. C'est une compilation de dessins, oui. Tu l'as dit, en fait, qui produit dans le mensuel d'humour sans H et de bande dessinée.
Voilà. Sans H. Et c'est bien, tu lis avec attention, sans H, parce que là, on a la H.
Ah ouf, punaise.
Sur la couverture.
Et c'est avec cet album qu'on va clôturer cette émission. Vous rappelez, Erectus chez Phileas, qui est une vraie réussite de roman un peu de roman graphique, d'anticipation, peut-être un petit peu de dystopie, même si c'est à l'époque actuelle. Mais
ah oui,
voilà. Non, parce que on va voir, c'est pas une dystopie, parce que, mais on peut pas trop dire.
Allez, on n'en dit pas plus.
On peut pas dire.
Oui.
Mais voilà. Ma petite louve, vraiment, de Camille Grégoire. Moi, c'est mon petit coup de cœur, parce que je trouve que c'est chouette de faire des BD comme ça, c'est très bien. Maouda, parce que c'est nécessaire,
oui, nécessaire
de lire ces histoires-là, ouais, et de comprendre la réalité du parcours de migrants. Maouda, qui est sorti chez La Boîte à Bulles. Et vraiment, ça s'écrit M-A-W-D-A. Voilà, il faut la lire, il faut la voir dans les deux, avec les deux orthographes,
oui,
comme l'Amérique.
Pour voir ce qu'on nous raconte aussi, c'est important.
Mmh. Oui, oui, aussi. Voilà. Et puis Frankenstein à Bagdad, ça c'est la petite bizarrerie du jour.
Oui.
Vraiment, voilà, dont on ne saura pas dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas,
c'est ni l'un ni
au
l'autre.
Moins,
hein,
au moins, on n'a jamais vu ça.
Oui, c'est vrai.
Et le dessin est vraiment bien.
Oui, oui, oui.
Voilà. On se retrouve très bientôt avec le reste de l'équipe, sans doute, pour de nouveaux numéros de Bulles à découvrir.
Nouvelles
BD. Oui, de nouvelles BD, on en a plein. Vous imaginez même pas tout ce qu'on reçoit. Et on sait plus. On sait plus quoi en faire. Non, mais sérieusement. À tout bientôt, Bernard.
À tout bientôt, comme tu
veux.